En premier lieu, elle implique une conception très contestable du suicide. Elle suppose en effet qu'il a toujours pour antécédent psychologique un état de surexcitation, qu'il consiste en un acte violent et n'est possible que par un grand déploiement de force. Or, au contraire, il résulte très souvent d'une extrême dépression. Si le suicide exalté ou exaspéré se rencontre, le suicide morne n'est pas moins fréquent, nous aurons l'occasion de l'établir. Mais il est impossible que la chaleur agisse de la même manière sur l'un et sur l'autre. Si elle stimule le premier, elle doit rendre le second plus rare. L'influence aggravante qu'elle pourrait avoir sur certains sujets serait neutralisée et comme annulée par l'action modératrice qu'elle exercerait sur les autres. Par conséquent, elle ne pourrait pas se manifester, surtout d'une façon aussi sensible, à travers les données de la statistique. Les variations qu'elle présente selon les saisons doivent donc avoir une autre cause. Quant à y voir un simple contre-coup des variations similaires que subirait au même moment l'aliénation mentale, il faudrait, pour pouvoir accepter cette explication, admettre entre le suicide et la folie une relation plus immédiate et plus étroite que celle qui existe. D'ailleurs, il n'est même pas prouvé que les saisons agissent de la même manière sur ces deux phénomènes. Et quand même ce parallélisme serait incontestable, il resterait encore à savoir si ce sont les changements de la température saisonnière qui font monter et descendre la courbe de l'aliénation mentale. Il n'est pas sûr que des causes d'une toute autre nature ne puissent produire ou contribuer à produire ce résultat. Mais de quelque manière qu'on explique cette influence attribuée à la chaleur, voyons si elle est réelle. Il semble bien résulter de quelques observations que les chaleurs trop violentes excitent l'homme à se tuer. Pendant l'expédition d'Égypte, le nombre des suicides augmenta, paraît-il, dans l'armée française, et on imputa cet accroissement à l'élévation de la température. Sous les tropiques, il n'est pas rare de voir des hommes se précipiter brusquement à la mer quand le soleil darde verticalement ses rayons. Le docteur Dietrich raconte que, dans un voyage autour du monde accompli de 1844 à 1847 par le comte Charles de Gortz, il remarqua une impulsion irrésistible, qu'il nomme du Hohaus, chez les marins de l'équipage et qu'il décrit ainsi. Le mal, dit-il, se manifeste généralement dans la saison d'hiver lorsque, après une longue traversée, les marins ayant mis pied à terre se placent sans précaution autour d'un poêle ardent et se livrent, suivant l'usage, aux excès de tout genre. C'est en rentrant à bord que se déclarent les symptômes du terrible Hohaus. Ceux que l'affection atteint sont poussés par une puissance irrésistible à se jeter dans la mer, soit que le vertige les saisisse au milieu de leurs travaux, au sommet des mâts, soit qu'ils surviennent durant le sommeil dont les malades sortent violemment en poussant des hurlements affreux. On a également observé que le sirocco, qui ne peut souffler sans rendre la chaleur étouffante, a sur le suicide une influence analogue. Mais elle n'est pas spéciale à la chaleur. Le froid violent agit de même. C'est ainsi que, pendant la retraite de Moscou, notre armée, dit-on, fut éprouvée par de nombreux suicides. On ne saurait donc invoquer ces faits pour expliquer comment il se fait que, régulièrement, les morts volontaires sont plus nombreuses en été qu'en automne et en automne qu'en hiver. Car tout ce qu'on peut conclure, c'est que les températures extrêmes, quelles qu'elles soient, favorisent le développement du suicide. On comprend du reste que les excès de tout genre, les changements brusques et violents survenus dans le milieu physique, troublent l'organisme, déconcertent le jeu normal des fonctions et déterminent ainsi des sortes de délires au cours desquels l'idée du suicide peut surgir et se réaliser si rien ne la contient. Mais il n'y a aucune analogie entre ces perturbations exceptionnelles et anormales et les variations graduées par lesquelles passe la température dans le cours de chaque année. La question reste donc entière. C'est à l'analyse des données statistiques qu'il faut en demander la solution. Si la température était la cause fondamentale des oscillations que nous avons constatées, le suicide devrait régulièrement varier comme elle. Or, il n'en est rien. On se tue beaucoup plus au printemps qu'en automne, quoiqu'il fasse alors un peu plus froid. Ainsi, tandis que le thermomètre monte de 0,9 degrés en France et de 0,2 degrés en Italie, le chiffre des suicides diminue de 21% dans le premier de ces pays et de 35% dans l'autre. De même, la température de l'hiver est en Italie beaucoup plus basse que celle de l'automne, 2,3 degrés au lieu de 13,1 degrés. Et pourtant, la mortalité suicide est à peu près la même dans les deux saisons, 196 cas d'un côté, 194 de l'autre. Partout, la différence entre le printemps et l'été est très faible pour les suicides, tandis qu'elle est très élevée pour la température. En France, l'écart est de 78% pour l'une et seulement de 8% pour l'autre. En Prusse, il est respectivement de 121% et de 4%. Cette indépendance par rapport à la température est encore plus sensible si l'on observe le mouvement des suicides, non plus par saison mais par mois. Ces variations mensuelles sont en effet soumises à la loi suivante qui s'applique à tous les pays d'Europe. À partir du mois de janvier inclus, la marche du suicide est régulièrement ascendante de mois en mois jusque vers juin et régulièrement régressive à partir de ce moment jusqu'à la fin de l'année. Le plus généralement, 62 fois sur 100, le maximum tombe en juin, 25 fois en mai et 12 fois en juillet. Le minimum a eu lieu 60 fois sur 100 en décembre, 22 fois en janvier, 15 fois en novembre et 3 fois en octobre. D'ailleurs, les irrégularités les plus marquées sont données pour la plupart par des séries trop petites pour avoir une grande signification. Là où l'on peut suivre le développement du suicide sur un long espace de temps comme en France, on le voit croître jusqu'en juin, décroître ensuite jusqu'en janvier, et la distance entre les extrêmes n'est pas inférieure à 90 ou 100% en moyenne. Le suicide n'arrive donc pas à son apogée aux mois les plus chauds qui sont août ou juillet. Au contraire, à partir d'août, il commence à baisser et très sensiblement. De même, dans la majeure partie des cas, il ne descend pas à son point le plus bas en janvier, qui est le mois le plus froid, mais en décembre. Le tableau 12 montre pour chaque mois que la correspondance entre les mouvements du thermomètre et ceux du suicide n'a rien de régulier ni de constant. Dans un même pays, des mois dont la température est sensiblement la même produisent un nombre proportionnel de suicides très différent. Par exemple, mai et septembre, avril et octobre en France, juin et septembre en Italie, etc. L'inverse n'est pas moins fréquent. Janvier et octobre, février et août en France comptent autant de suicides malgré des différences énormes de température. Il en est de même d'avril et de juillet en Italie et en Prusse. De plus, les chiffres proportionnels sont presque rigoureusement les mêmes pour chaque mois dans ces différents pays, quoique la température mensuelle soit très inégale d'un pays à l'autre. Ainsi, mai, dont la température est de 10,47 degrés en Prusse, de 14,2 degrés en France et de 18 en Italie, donne dans la première 104 suicides, 105 dans la seconde et 103 dans la troisième. On peut faire la même remarque pour presque tous les autres mois. Le cas de décembre est particulièrement significatif. Sa part dans le total annuel des suicides est rigoureusement la même pour les trois sociétés comparées, 61 suicides pour 1000. Et pourtant, le thermomètre à cette époque de l'année marque en moyenne 7,9 degrés à Rome, 9,5 degrés à Naples, tandis qu'en Prusse, il ne s'élève pas au-dessus de 0,67 degrés. Non seulement les températures mensuelles ne sont pas les mêmes, mais elles évoluent suivant des lois différentes dans les différentes contrées. Ainsi en France, le thermomètre monte plus de janvier à avril que d'avril à juin, tandis que c'est l'inverse en Italie. Les variations thermométriques et celles du suicide sont donc sans aucun rapport. Si d'ailleurs la température avait l'influence qu'on suppose, celle-ci devrait se faire sentir également dans la distribution géographique des suicides. Les pays les plus chauds devraient être les plus éprouvés. La déduction s'impose avec une telle évidence que l'école italienne y recourt elle-même, quand elle entreprend de démontrer que la tendance homicide, elle aussi, s'accroît avec la chaleur. Lombroso, Ferri, se sont attachés à établir que, comme les meurtres sont plus fréquents en été qu'en hiver, ils sont aussi plus nombreux au sud qu'au nord. Malheureusement, quand il s'agit du suicide, la preuve se retourne contre les criminologistes italiens, car c'est dans les pays méridionaux de l'Europe qu'il est le moins développé. L'Italie en compte 5 fois moins que la France. L'Espagne et le Portugal sont presque indemnes. Sur la carte française des suicides, la seule tache blanche qui ait quelque étendue est formée par les départements situés au sud de la Loire. Sans doute, nous n'entendons pas dire que cette situation soit réellement un effet de la température, mais quelle qu'en soit la raison, elle constitue un fait inconciliable avec la théorie qui fait de la chaleur un stimulant de suicide. Le sentiment de ces difficultés et de ces contradictions a amené Lombroso et Ferri à modifier légèrement la doctrine de l'école, mais sans en abandonner le principe. Suivant Lombroso, dont Morselli reproduit l'opinion, ce ne serait pas tant l'intensité de la chaleur qui provoquerait au suicide que l'arrivée des premières chaleurs, que le contraste entre le froid qui s'en va et la saison chaude qui commence. Celle-ci surprendrait l'organisme au moment où il n'est pas encore habitué à cette température nouvelle. Mais il suffit de jeter un coup d'œil sur le tableau 12 pour s'assurer que cette explication est dénuée de tout fondement. Si elle était exacte, on devrait voir la courbe qui figure les mouvements mensuels du suicide rester horizontale pendant l'automne et l'hiver, puis monter tout à coup, à l'instant précis où arrivent ces premières chaleurs, source de tout le mal, pour redescendre non moins brusquement, une fois que l'organisme a eu le temps de s'y acclimater. Or, tout au contraire, la marche en est parfaitement régulière. La montée, tant qu'elle dure, est à peu près la même d'un mois à l'autre. Elle s'élève de décembre à janvier, de janvier à février, de février à mars, c'est-à-dire pendant les mois où les premières chaleurs sont encore loin. et elle redescend progressivement de septembre à décembre, alors qu'elles sont depuis si longtemps terminées qu'on ne saurait attribuer cette décroissance à leur disparition. D'ailleurs, à quel moment se montrent-elles? On s'entend généralement pour les faire commencer en avril. En effet, de mars à avril, le thermomètre monte de 6,4 degrés à 10,1 degrés. L'augmentation est donc de 57%, tandis qu'elle n'est plus que de 40% d'avril à mai, de 21% de mai à juin. On devrait donc constater en avril une poussée exceptionnelle de suicides. En réalité, l'accroissement qui se produit alors n'est pas supérieur à celui qu'on observe de janvier à février, 18%. Enfin, comme cet accroissement non seulement se maintient, mais encore se poursuit, quoique avec plus de lenteur, jusqu'en juin et même jusqu'en juillet, il paraît bien difficile de l'imputer à l'action du printemps, à moins de prolonger cette saison jusqu'à la fin de l'été, et de n'en exclure que le seul mois d'août. D'ailleurs, si les premières chaleurs étaient à ce point funestes, les premiers froids devraient avoir la même action. Eux aussi surprennent l'organisme qui en a perdu l'habitude et troublent les fonctions vitales jusqu'à ce que leur réadaptation soit à fait accomplie. Cependant, il ne se produit en automne aucune ascension qui ressemble même de loin à celle que l'on observe au printemps. Aussi, ne comprenons-nous pas comment Morselli, après avoir reconnu que, d'après sa théorie, le passage du chaud au froid doit avoir les mêmes effets que la transition inverse, a pu ajouter « Cette action des premiers froids peut se vérifier soit dans nos tableaux statistiques, soit mieux encore dans la seconde élévation que présentent toutes nos courbes en automne, au mois d'octobre et de novembre, c'est-à-dire quand le passage de la saison chaude à la saison froide est le plus vivement ressenti par l'organisme humain, et spécialement par le système nerveux. » On n'a qu'à se reporter au tableau 12 pour voir que cette assertion est absolument contraire aux faits. Des chiffres mêmes donnés par Morselli, il résulte que, d'octobre à novembre, le nombre de suicides n'augmente presque dans aucun pays, mais au contraire diminue. Il n'y a d'exception que pour le Danemark, l'Irlande, une période de l'Autriche, 1851-54, et l'augmentation est minime dans les trois cas. Au Danemark, il passe de 68 pour 1000 à 71, en Irlande de 62 à 66, en Autriche de 65 à 68. De même, en octobre, il ne se produit d'accroissement que dans 8 cas sur 31 observations, à savoir pendant une période de la Norvège, une de la Suède, une de la Saxe, une de la Bavière, de l'Autriche, du duché de Bade et deux du Württemberg. Toutes les autres fois, il y a baisse ou état stationnaire. En résumé, 21 fois sur 31, ou 67 fois sur 100, il y a diminution régulière de septembre à décembre. La continuité parfaite de la courbe, tant dans sa phase progressive que dans la phase inverse, prouve donc que les variations mensuelles du suicide ne peuvent résulter d'une crise passagère de l'organisme, se produisant une fois ou deux dans l'année, à la suite d'une rupture d'équilibre brusque et temporaire. Mais elles ne peuvent dépendre que de causes qui varient elles aussi avec la même continuité.